Une chose déjà cet après-midi. Donc Juge 14. Juge 14. Mais on lit aussi les deux derniers versets du chapitre 13. Juge 13, verset 24. Et la femme enfanta un fils et appela son nom Samson. Et l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença de le pousser à Mahané Dan, entre Tzora et Eshtaol. Chapitre 14. Et Samson descendit à Timna. Il vit à Timna une femme d'entre les filles des Philistins. Il remonta et le raconta à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme d'entre les filles des Philistins, et maintenant prenez-la-moi pour femme. » Et son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout mon peuple, que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, les incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends celle-là pour moi, car elle plaît à mes yeux. » Et son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de la part des Philistins. Or, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Et Samson descendit à Timna avec son père et sa mère, et ils arrivèrent jusqu'aux vignes de Timna. Et voici un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et il le déchira, comme on déchire un chevreau, quoiqu'il n'eût rien en sa main. Et il ne déclara point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Et il descendit et parla à la femme, et elle plut aux yeux de Samson. Et il retourna quelque temps après pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait dans le corps du lion un essaim d'abeilles et du miel. Il en prit dans ses mains, et s'en alla, mangeant en chemin. Il alla vers son père et vers sa mère, et leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur raconta pas qu'il avait tiré le miel du corps du lion. Et son père descendit vers la femme, et Samson fit là un festin, car c'est ainsi que les jeunes gens avaient l'habitude de faire. Et il arriva que, quand ils le virent, ils prirent 30 compagnons, et ils furent avec lui. Et Samson leur dit, « Je vous proposerai, s'il vous plaît, une énigme. Si vous me l'expliquez dans les 7 jours du festin, et si vous la trouvez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, c'est vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme, et nous l'entendrons. » Il leur dit, « De celui qui mange est sorti le manger, et du fort est sorti la douceur. » Et pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Il arriva le 7e jour qu'ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari et il nous expliquera l'énigme de peur que nous ne te brûlions au feu, toi et ta maison de ton père, et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez appelés, n'est-ce pas ?» Et la femme de Samson pleura auprès de lui et dit, « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme au fils de mon peuple, et tu ne me l'as pas expliquée. » Il lui dit, « Voici, je ne l'ai pas expliquée à mon père et à ma mère, et je te l'expliquerai à toi. » Et elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours qu'ils eurent le festin. Il arriva le 7e jour qu'il la lui expliqua parce qu'elle le tourmentait. Et elle expliqua l'énigme au fils de son peuple. Et le 7e jour, avant que le soleil se couchât, les hommes de la ville lui dirent, « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Et qu'y a-t-il de plus fort que le lion ?» Il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. » Et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon, et en tua 30 hommes, et prit leurs dépouilles, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avait expliqué l'énigme. Et sa colère s'embrasa, il monta à la maison de son père. Et la femme de Samson fut donnée à son compagnon, dont il avait fait son ami. Jusqu'ici la lecture de la parole. Je voulais mentionner ce matin un verset que j'ai oublié, en rapport avec le Seigneur Jésus qui est merveilleux. On a vu que son nom est merveilleux, que son sacrifice est merveilleux, et aussi la façon dans laquelle il est monté est merveilleux. Dans Isaïe 9, verset 6, nous trouvons sept noms du Seigneur Jésus. Et un de ces noms, le premier, c'est merveilleux. Il est merveilleux. Donc c'est même son nom, merveilleux. Et comme l'ange le dit ici, il est merveilleux, le nom est merveilleux. Et dans ce même verset, Isaïe 9, verset 6, nous voyons un de ses noms, Dieu homme ou Dieu fort. Mais littéralement, ça veut dire Dieu homme et ou Dieu fort. On pourrait traduire les deux façons. Et on voit donc cette puissance aussi dans cette façon dans laquelle Dieu s'est révélé par Samson. Donc, qu'il est merveilleux, qu'il est un Dieu fort, toutes ces qualités on retrouve dans ce chapitre. Et nous avons aussi mentionné dans nos cantiques que son nom est merveilleux. On le voit dans ce chapitre. Et c'est là que j'aimerais encore revenir, cette explication, cette intervention divine dans le siècle passé où Dieu a réintroduit la grandeur du Seigneur Jésus d'une façon remarquable. Le Seigneur Jésus était connu par les saints dans le siècle passé d'une meilleure façon qu'auparavant. C'est ça le point. Ils l'ont mieux compris. Ils l'ont mieux vu sa grandeur comme Dieu, comme homme, fils de l'homme, son sacrifice et aussi comment il est assis à la gloire, dans la gloire, à la droite de Dieu. C'est là où les saints ont appris ces choses, comme ces choses étaient connues par les apôtres au début. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il a redonné ça à son peuple. Mais c'est seulement un résidu qui jouit de ça, comme Manoah ici, malgré ses manques et sa femme. Comme Samson, il a connu ces choses, ces secrets de Dieu. Parce que c'est un secret. C'est un deuxième élément que j'ai oublié ce matin. On va revenir à ça plusieurs fois dans la vie de Samson. Ce nom merveilleux, c'est un secret. Cette relation entre Dieu, qui est merveilleux, et Samson, c'est une relation secrète. Le monde ne peut pas saisir ça. Et comme on va voir dans cette énigme-là, le monde ne peut pas saisir les secrets de l'homme de Dieu. C'est entre lui et Dieu. Et comme le Nazaréen, le vœu du Nazaréen, dans Nombre 6, on a lu Nombre 6 un peu ce matin, c'est là où nous voyons ce secret. C'est un secret entre ce vainqueur dans le peuple de Dieu, entre l'homme de Dieu au milieu de la profession du peuple de Dieu et Dieu. C'est un secret. Et dans l'histoire, au cours de cette histoire-là, on voit sept fois un secret dans Samson. Je vais le remarquer plus tard. Nous avons aussi sept interventions de l'Esprit, où l'Esprit a saisi Samson pour qu'il soit un vase pour Dieu. Okay? On va revenir à ça. Donc maintenant, le verset 24 du chapitre 13. « Et la femme enfanta un fils et appela son nom Samson. » Donc on a eu les prérequisites, on a eu la préparation, et maintenant c'est la réalisation des pensées de Dieu. Et c'est une nouvelle lumière. On a vu donc toutes les préparations que ça prend, mais maintenant c'est là, cette nouvelle lumière brille, parce que Samson veut dire petit soleil. Et ça m'amène à un troisième point que j'aimerais mentionner. Il y a des croyants qui pensent que Samson est une image de Christ, un type de Christ, comme David ou Joseph, mais je pense pas que c'est correct. Par contre, on voit plusieurs attributs de Christ, ou plusieurs caractéristiques de Christ en Samson. Ça, c'est vrai. Ainsi, on voit aussi plusieurs caractéristiques de Christ en Philadelphie. On peut pas dire que Philadelphie est un type de Christ. Et ainsi, on peut pas dire que Samson est un type de Christ. Par contre, nous voyons des choses de Christ reflétées, reproduites dans ces saints-là. Comme on voit quelque chose de Christ reproduit en Samson. Et ce serait la même chose pour nous. On peut jamais être un type de Christ. Par contre, il peut nous remplir, il peut travailler en nous afin que nous reflétions les caractéristiques de Christ. Une chose ici, petit soleil, ça veut dire le Seigneur est le grand soleil. Le quatrième jour de la création, on voit que Dieu a créé le soleil. Et le soleil nous parle de Christ. Comme Christ va introduire son règne millénaire, Malachie 4, nous voyons que le Seigneur Jésus est le soleil de justice. Il va régner sur toute la terre, il va briller sur toute la terre. En attendant ce moment-là, le Seigneur brille dans les siens. Il brille dans les hommes de Dieu. Il ne brille pas dans toute la profession chrétienne, parce qu'on a vu, il y a beaucoup de morts, beaucoup qui n'est pas selon les pensées de Dieu. Mais il peut briller dans l'homme de Dieu. Il peut briller en vous et moi si on s'est séparé pour Dieu. Souvent, on pense que la séparation est une pensée négative, mais c'est pas vrai. Le secret du Nazaréat, le secret de la séparation est très positif. C'est pour être entièrement disponible pour Dieu. C'est ça vraiment le secret. Et ainsi, on peut comprendre pourquoi Samson est un petit soleil. Parce qu'il représente quelque chose de Christ, le vrai soleil. Dans 2 Pierre 1, nous voyons que le soleil a commencé à briller dans nos cœurs. Et ainsi, Dieu veut que le Seigneur Jésus devienne de plus en plus grand en nous. Parce que la deuxième signification de ce nom est puissant. On a parlé de la puissance ce matin. Cette puissance qu'on trouve dans les jours du déclin. Vous voyez, il y a des possibilités pour un homme de Dieu, une femme de Dieu, aujourd'hui, des possibilités qui sont plus grandes que les croyants avaient en général. Au début, où les apôtres étaient là, parce que là, tout était correct. Il n'y avait pas de déviation, donc il n'y avait pas la nécessité d'avoir un vœu comme le vœu du Nazaréen, le Nazaréat. Par contre, s'il y a une déviation parmi les peuples, s'il y a de l'infidélité, c'est là où ceux qui veulent être fidèles ont une possibilité de se séparer, de se consacrer entièrement à Dieu. Maintenant, une autre chose dans le verset 24, « Et l'enfant grandit ». Ça, c'est le progrès. Est-ce qu'on aimerait toujours être de petits bébés comme Yann? Ou est-ce qu'on veut croître comme Jimmy? Hein? On veut devenir plus grand? Et c'est la même chose à l'école de Dieu. Ici, dans le verset 24 et 25, on est à l'école de Dieu. Et tous les enfants qui sont sauvés, tous les croyants, sont à l'école de Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans la première classe. Il veut que nous parcourions toute l'école. Et ainsi, Samson a commencé à l'école de Dieu. Ça me fait penser à Samuel. C'est très intéressant de comparer les vrais Nazaréens de la parole de Dieu, comme Samuel. Il y a beaucoup d'emphase aussi. Souvent, c'est répété, il grandit. Et puis, il devenait grand pour Dieu et pour les hommes. Ça nous fait penser au Seigneur Jésus, le vrai modèle pour le croyant, comme il grandit, Luc 2. Mais aussi Jean le baptiseur était aussi un Nazaréen. Sa mère était comme la femme de Manoah. Et comme Anne dans 1 Samuel 1, c'était des cas parallèles. Et puis dans chaque cas, on voit que l'enfant grandit, comme Jean le baptiseur aussi, à l'école de Dieu. Et ce qui est touchant de voir ici, l'Éternel le bénit. Il y avait une relation intime entre cet enfant-là et le Seigneur. Nos enfants, il y a une relation intime entre Dieu et vous. Il y a des choses qui se passent dans votre vie que même vos parents ne connaissent pas. Vous écoutez un verset, ça vous frappe. Vous écoutez peut-être un cantique, ou vous chantez un cantique, ou vous lisez un chapitre dans la parole de Dieu, et vous avez une leçon très spéciale. Personne ne le sait, seulement Dieu le sait. Ainsi, Dieu veut vous bénir. Dieu veut bénir les enfants à l'école de Dieu. Il veut bénir les jeunes croyants qui sont à l'école de Dieu. Il veut bénir aussi les parents. Parce qu'on est tous à l'école de Dieu. Mais quelle chose merveilleuse de voir que Dieu le bénit. Ensuite, verset 25. L'Esprit de l'Éternel commença le pousser. Ici, c'est donc un vase préparé par Dieu lui-même et il devient un instrument dans la main de Dieu. L'Esprit de l'Éternel. On a vu quelque chose de Dieu. On a vu quelque chose du Seigneur Jésus. Je ne dis pas que le Père est révélé ici dans l'Ancien Testament, mais on voit quand même des caractéristiques de Dieu comme un Père. Mais ici, nous voyons l'emphase sur l'Esprit. Et c'est là le même élément qu'on trouve aussi dans 2 Timothée et aussi dans Apocalypse, Philadelphie, c'est dans ce mouvement-là où, de nouveau, les croyants ont vu l'importance de l'esprit. Pas pour être des fanatiques. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent de l'esprit, mais c'est pas toujours l'esprit de Dieu. Il faut que ce soit l'esprit de Dieu. Et même là, si c'est l'esprit de Dieu agit toujours en accord avec la parole de Dieu. L'esprit ne dévie jamais de la parole de Dieu. Et l'esprit présente Christ toujours. Il magnifie Christ. Mais l'esprit veut se servir de nous comme un instrument. On le voit de nouveau dans Samuel, dans Jean le baptiseur, dans le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, à l'école de Dieu, il était, à un moment donné, poussé par l'esprit. Comme ici, l'enfant était poussé. Comme les hommes saints de Dieu, 2 Pierre 1, il était poussé par l'Esprit Saint pour écrire la parole de Dieu. Et ainsi, ces hommes de Dieu, à l'école de Dieu, étaient poussés. On voit aussi que le Seigneur Jésus était dirigé par l'Esprit de Dieu. Il était le vrai roi. Et le vrai roi était accompagné, pour ainsi dire, par l'Esprit de Dieu. Et comme homme parfait, il était ainsi dirigé dans chaque pas, dans Luc 4. Mais l'Esprit de Dieu, ainsi, veut nous diriger. Romains 8, il veut nous pousser, parce que nous sommes des serviteurs. Un serviteur est poussé, dans ce sens-là, pour être un prophète, un homme de Dieu. Maintenant, un autre élément, là, à la fin du verset 25, c'est où ça? À Mahanédan. L'Esprit de Dieu aurait pu prendre Samson et lui donner une éducation au centre de la Russie, par exemple, où il aurait pu mettre en Alaska. Il n'a pas fait ça. Il lui a donné cette formation à la maison, dans son propre village. On pourrait dire dans le rassemblement où il était, pour parler d'un langage du Nouveau Testament. Ça me fait penser à Timothée de nouveau. Timothée a été sauvé pendant le premier voyage de l'apôtre Paul. Et le deuxième voyage, Actes 16, Paul elle vient là. Et puis là, ce jeune homme a un bon témoignage du rassemblement où il était et des rassemblements de l'entour. C'est là où l'esprit commence à se servir de nous, pas ailleurs. Mais plus tard, l'esprit s'est servi de Samson ailleurs aussi. Mais ça commence à la maison, ça commence à l'école de Dieu, dans le secret, et chez lui, pour ainsi dire. Et il y a encore une qualification là, entre Tsora et Eshtaol. Juste mentionner que dans Juges 18, verset 12, nous voyons aussi Mahanédan. C'est donc un nom qu'ils ont donné plus tard à cette ville-là. Mais en tout cas, c'était dans la tribu de Dan. Et j'aimerais encore mentionner un point que j'ai oublié ce matin. Le choix souverain de Dieu de choisir Dan. Parce que Dan était une tribu plus ou moins méprisée. Dan n'avait pas un territoire très grand, comme Judas. Judas avait un très grand territoire. Et Dan avait juste une petite partie entre Judas et Éphraïm, un peu à côté. Plus tard, ils ont eu plus d'espace. On va voir ça plus tard dans le livre des Juges. Mais il était une tribu pas très importante. Mais c'est là où Dieu s'est choisi ce vase. De nouveau donc, ce choix souverain, ça ne dépend pas de la grandeur de l'homme ou de la grandeur d'une tribu ou d'une position. Deuxièmement, Tsora, nous avons vu déjà ce matin, veut dire frappé de lèpre, ça nous parle donc de la condition générale du peuple. Et Eshtaol, c'est là où il est aussi enterré plus tard, entre Tsora et Eshtaol, dans ce petit village, a été enseveli. J'ai oublié le nom de la signification de Eshtaol. On peut le vérifier plus tard. Donc, c'est là où il commence maintenant son service public. Mais, maintenant, la transition. On a vu jusqu'à maintenant l'œuvre de Dieu, la préparation de la part de Dieu, une œuvre de Dieu. Maintenant, on voit l'autre côté, la responsabilité de l'homme. Et tout de suite, on est frappé par cette expression. Samson descendit. Ça veut dire quoi? Il allait en bas. Ça veut dire, spirituellement, il n'a pas continué sur la même hauteur que Dieu l'avait placé, ou Dieu l'avait préparé. Et c'est ça aussi notre chemin. Parce que souvent, on voit là le standard de Dieu, mais souvent nous abaissons le standard de Dieu. Souvent nous descendons aussi et nous dévions du standard de Dieu. Dans notre service pour le Seigneur, comme Samson ici commence à servir l'Éternel. Et c'est toujours le cas. Dans l'histoire de la responsabilité de l'homme, on voit que l'homme n'est jamais à l'auteur des pensées de Dieu. Il y avait une seule exception, c'était le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était toujours à la hauteur des pensées de Dieu. Dans ce sens-là, il n'a jamais descendu. Il est descendu par contre. Pourquoi? Pour être avec nous. C'est pour ça qu'il est descendu. Il vit. Deuxième chose. Timna était dans la même région que la tribu de Dan, mais il avait perdu de territoire. On a vu ça dans Juges 1. Les tribus d'Israël avaient perdu des territoires. Et ainsi, les Philistins ont invadé le pays de plus en plus, ont occupé même Judée, la tribu de Juda, leur territoire. Et Timna appartenait au peuple de Dieu d'abord, mais les Philistins l'ont usurpé. Il vit. Maintenant, d'abord, à Timna. Timna veut dire une part. Ça devient du mot nombrer, ou ça veut dire aussi retenir. Le peuple aurait dû retenir cette part-là, mais ils l'ont perdue à cause de l'usurpation des Philistins. Mais quand même, il y a là une intervention de Dieu, parce que Dieu va se servir de ce désir de Samson pour accomplir quelque chose contre les Philistins. Et ça nous amène maintenant à un point très important à saisir. Ce mélange entre la responsabilité de l'homme et les manques de la part de l'homme et l'œuvre de Dieu, l'intervention de Dieu. C'est comme un mélange. On va voir ça à travers l'histoire de Samson. Et on voit ça aussi à Philadelphie. J'ai mentionné ce matin, il avait beaucoup de force. Samson avait beaucoup de force, puissant. Mais pourquoi il avait en réalité une petite force? À cause de ses propres faiblesses. Ici, la première faiblesse. Il vit une femme. Et puis cette femme n'appartenait pas au peuple de Dieu. Et c'est pour ça que son père proteste. Mais d'abord, quelque chose dans le verset 2. J'ai vu une femme. On voit que c'est le point de départ souvent dans nos relations avec Dieu qu'on est impressionné par ce qu'on voit. Genèse 3 montre ça déjà. Ève a vu le fruit. Elle a vu l'arbre. Ça commence le déclin. Et plus tard, dans 1 Jean 2, on a ces trois phases. Ce qu'on voit, la convoitise des yeux, et aussi la convoitise de la chair, qu'on va voir dans chapitre 16, et ensuite la fierté ou l'orgueil. Et c'est ça qu'on va voir dans chapitre 16. C'est remarquable que ces trois phases qui ont joué un rôle dans l'histoire d'Ève, dans la chute de l'homme, aussi dans Adam évidemment, ces trois éléments, on les retrouve dans la vie de Samson. Il a vu cette femme. La deuxième occasion, chapitre 16, on va le voir, c'est une prostituée, c'est la convoitise de la chair, et puis plus tard, avec Delilah, ça va encore plus loin. Et c'est la même déviation qu'on voit souvent dans nos propres vies et aussi dans le témoignage de Dieu. Maintenant, j'aimerais encore élaborer un peu sur ce mélange. On voit donc le manque du côté de Samson et aussi même, peut-être je pourrais suggérer un manque de la part de ses parents, verset 3. Il y avait un manque de communion. Samson a simplement dicté, il a simplement dit « je vais faire ça ». C'est aussi une leçon pour nous. Souvent, il y a un manque de respect de la part des enfants pour les parents, mais aussi un manque de communion de la part des parents. Et dans le verset 3, nous voyons « Et son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères ?» Donc, il présente les pensées de Dieu. Deutéronome, d'autres passages nous montrent clairement ce principe-là. Et 1 Corinthiens 7 nous parle de ça aussi, qu'une sœur se marie dans le Seigneur, mais il ne veut pas écouter. Il fait sa propre volonté. Et puis, le père dit encore, dans tout mon peuple, son père s'identifie avec le peuple de Dieu. Plus que Samson maintenant. On voit là une mauvaise alliance. Et le premier pas sur un mauvais chemin va amener un deuxième pas. Parce que le verset 10 nous parle de ce festin. En s'alliant à cette femme, Samson va s'allier même aux Philistins en général. Et 2 Corinthiens 6 nous montre ce chemin. Le chemin de la propre volonté du péché est toujours un chemin qui descend. Et ça va aussi de pire en pire. Et ça implique plus de gens graduellement. Donc ça, c'est le côté de Samson, ses manques. Mais à la fin du verset 3, Samson dit à son père, « Prends celle-là pour moi, car elle plaît à mes yeux. » Ce qui m'a frappé, c'est de voir que cette même expression, ce qui plaît, ça veut dire ce qui est bon à mes yeux, se retrouve dans chapitre 17 et dans chapitre 21 du même livre. Tout le peuple faisait ce qui était bon dans leurs yeux. C'est frappant, ça. Et Samson n'est pas une exception. Il est ici sur le même niveau que le peuple. Le peuple fait ce qui est bon dans leurs yeux. Puis, maintenant, la question pour vous et moi. Est-ce que moi, je fais ce qui est bon dans mes yeux? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la profession chrétienne qui mettent beaucoup d'emphase sur le « moi ». Mais pas comme Galates 2, verset 20 nous parle. « Moi, je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus. Christ vit en moi. » Ça, c'est la pensée de Dieu. Et ce serait la leçon pour Samson aussi, que Christ soit vu. Mais au lieu de ça, on voit Samson, on voit la chair. Donc, au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu, il se soumet à ce qui est naturel, il se soumet à ses propres désirs, comme le peuple le faisait en général, qui faisait ce qui est bon, ce qui était bon dans leur jeu. Donc, tout un chemin de déviation. Maintenant, le verset 4. Premier secret. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Nous avons 3 fois dans ce chapitre que ses parents ne savaient pas quelque chose. Ses parents savaient que c'est pas correct. Selon la loi de Dieu, ce n'était pas correct pour Samson de se marier avec une femme philistine, des Philistins. L'autre côté, il ne savait pas le secret. Il ne savait pas le secret entre l'Éternel et Samson. Et ça, c'est maintenant le côté de Dieu. Il avait ce secret. Il avait le plan de Dieu que Samson soit un instrument dans les mains de Dieu pour délivrer le peuple. Et puis les parents n'avaient pas compris ça, ne savaient pas ça. C'est la première fois. Et on va encore voir 2 fois dans ce chapitre quelque chose que les parents n'ont pas connu. Et ainsi, il y avait 7 secrets dans la vie de Samson. On va voir au cours de l'histoire. Verset 4 au milieu. « Car Samson cherchait une occasion de la part des Philistins. » Or, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. On a vu donc, chapitre 13 et aussi chapitre 15, la domination des Philistins. Et c'est ça un point qu'on doit saisir vraiment. Ce mélange. Et au cours de cette histoire-là, il y a toujours ce mélange. L'ennemi s'oppose aux Nazaréens. Il s'oppose. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a eu tant d'opposition. Parce qu'il était le vrai Nazaréen. Et l'ennemi hait quelqu'un qui est séparé pour Dieu. Il hait ça. Il ne veut pas la dépendance. Il ne veut pas la vie de Dieu. Il ne veut pas la réalité, tout cela. Donc, il s'oppose. Il peut utiliser ici les choses naturelles, comme c'est quelque chose de la nature. Dieu a donné ce désir dans un homme, dans une femme, pour se marier. C'est pas mauvais, ça. Mais il faut que ça soit placé sur le plan de Dieu. Il faut que ce soit placé dans le bon contexte. Et c'est là où Samson a manqué. C'est là où il s'est laissé diriger par sa propre volonté, par son propre désir et la convoitise des yeux, comme on a vu. Et souvent, pas seulement dans des questions comme ça, mais en général, souvent c'est comme ça dans nos vies, qu'il y a un mélange entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous-mêmes ou de la chair. Mais la grâce de Dieu qu'on voit ici, il se sert quand même de nous. Il se sert quand même de Samson. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec tout ça. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y a petite force au lieu d'une grande force. La grande force est disponible, mais la grandeur de la force, la puissance de Dieu est limitée par nos manques, par les faiblesses qu'on voit de notre côté. Verset 5 maintenant. Samson descendit à Timna avec son père et sa mère. Ils arrivèrent jusqu'aux vignes de Timna, et voici un jeune lion. Un jeune lion. J'étais frappé de voir que dans l'hébreu, il y a 5 mots pour des lions, 5 mots différents, qui représentent des phases de croissance dans le lion. Et je pense, j'aimerais suggérer que ces 5 phases qu'on voit dans le lion parlent de l'opposition de l'ennemi. Sans doute, Samson a eu l'opposition de la part de l'ennemi, même au début déjà, lorsqu'il était un jeune garçon avec ses longs cheveux. C'était l'opprobre déjà à cette phase-là. Et sans doute l'ennemi l'a attaqué. Ici, il est un jeune homme. Et le lion qui apparaît là sur la scène, c'est un lion qui est mature, qui est un adolescent, comme Samson était un adolescent. Plus tard, on voit des attaques de l'ennemi. Le lion n'est pas mentionné littéralement, mais ce sont des attaques plus sérieuses plus tard, plus sérieuses. Ici, c'est un jeune lion en rapport avec le niveau où Samson est maintenant spirituellement. Voici un jeune lion. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu est en contrôle. Si Satan nous attaque, Dieu est en contrôle. Si Dieu ne permet pas à Satan de nous attaquer, Satan ne peut pas nous attaquer. Et puis Dieu permet donc, sur chaque phase de nos vies, dépendant où on est, certaines attaques. C'est pour nous former à l'école de Dieu. C'est pour que nous soyons ouverts pour l'intervention de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, l'Éternel saisit. Là, un nouveau secret, on pourrait dire. Samson a réalisé qu'il n'avait aucun moyen en lui-même. C'est quelque chose qui m'a frappé aussi. Verset 6. Quoiqu'il n'eût rien à sa main, il n'avait aucune ressource en lui-même. Et puis le mouvement de Philadelphie a été caractérisé par ça, qu'il n'y avait pas de ressources humaines, mais qu'on voulait se remettre à Dieu, aux ressources que Dieu avait mis à la disposition. C'est une leçon pour nous aujourd'hui. Souvent, on veut dévier de ce sentier-là. On veut avoir toutes sortes de remèdes humaines qui, en soi, ne sont pas mauvaises. Souvent, c'est pas mauvais. Mais ça prend la place de l'Éternel, ça prend la place de l'Esprit, c'est ça le problème. Et puis, dans la mesure où nous introduisons des choses qui ne viennent pas de Dieu, dans cette mesure-là, ça prend la liberté de l'Esprit, ça ôte l'intervention de la puissance de l'Esprit. Ici, il n'y avait rien en sa main, rien comme David plus tard lorsqu'il a attaqué Goliath. Il n'a pas attaqué Goliath en étant dressant dans cette armure du roi Saul. Non, il est allé avec ce qu'il avait. Là, il avait donc cette fronde avec cette pierre. Mais ici, nous voyons qu'il a frappé le lion sans rien, donc sans aucun aide ou moyen que ce soit, seulement dirigé par l'Esprit de Dieu. Et on voit là deux principes que j'aimerais souligner. On doit résister. Vous voyez, si c'est une question de fornication, comme on voit plus tard dans la vie de Samson, on doit fuir. Parce qu'on n'a pas de force en nous-mêmes pour résister à ça. Ou si c'est une question d'idolâtrie, on doit fuir. Ou une question d'argent, l'amour pour l'argent, 1 Timothée 6. Ou l'arrogance, on a lu ce matin 2 Timothée 2, les convoitises de la jeunesse. Il faut fuir, parce que ce sont toutes des faiblesses de la chair. On ne peut pas améliorer la chair en nous-mêmes. Il faut fuir de cette influence-là. Par contre, on doit résister en rapport avec des attaques qui viennent du dehors. Le lion vient de dehors, c'est pas quelque chose en nous-mêmes, parce que par la chair, on est faible. On doit fuir des tentations qui nous mettent vulnérables, qui sont dirigées à la chair en nous. Par contre, si c'est une attaque, comme ici, contre l'homme de Dieu, contre le témoignage de Dieu, là, on doit résister. 1 Pierre 5 nous parle de ça, que le Satan vient comme un lion rugissant. Et puis là, il est dit qu'on doit résister. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qu'il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la chair, dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Donc, on a beaucoup de choses communes. Mais on doit donc résister contre ces attaques du lion rugissant. Ainsi, la puissance de Dieu se manifeste dans Samson et en nous aussi. C'est donc une expérience maintenant à l'école de Dieu, mais c'est en même temps le commencement de son service public. Donc, c'est ici la première fois qu'on lit « L'Esprit le saisit ». Et ensuite, on en a encore 6 autres occasions. Donc, une perfection de un nombre parfait d'intervention de Dieu. Il a déchiré le lion comme un chevreau. Donc, on voit ici qu'on doit attaquer l'ennemi sans moyens humains ou sans les arguments de la chair. Souvent, on va raisonner, on va faire ça. Mais il faut que ce soit sans ces choses-là pour que l'esprit soit là-dedans. Et ainsi, c'était une expérience très personnelle. Ses parents ne l'ont pas vu. Personne ne l'a vu. Une expérience très personnelle. C'est le secret du Nazaréen. Et ce secret, on voit maintenant dans cette énigme plus tard, il a, pour ainsi dire, laissé tomber. Donc, verset 7, il descendit et parla à la femme. On voit ici que c'est un chemin de propre volonté. C'est pas juste une petite faiblesse. Non, il continue dans ce chemin-là. Ça devient plus grave. Et il retourna quelque temps après pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. OK, ça c'est beau de voir. Il voit maintenant une deuxième leçon. La première leçon, on a vu, c'est l'intervention de l'esprit pour frapper le lion. Et c'était un secret entre Dieu et lui. Et maintenant, il retourne pour voir le cadavre parce qu'il aime, penser à cette expérience qu'il a eue à l'école de Dieu. Il veut voir ce qui se passe maintenant. Et c'est remarquable que là, dans le corps du lion, il y avait un essaim d'abeilles. C'est donc une deuxième expérience. Cet endroit-là est devenu un endroit de bénédiction. Là où la puissance a été manifestée, dans le premier cas, c'est là où Dieu donne maintenant une bénédiction particulière. Et j'aimerais revenir à ce verset qu'on a lu ce matin, 2 Timothée 2. Lorsqu'on se sépare du mal, lorsqu'on est vraiment disponible à cette puissance de Dieu, c'est là où il y a des bénédictions particulières. Le mot « est saint », c'est littéralement une assemblée. Ça nous parle donc de ceux qui sont ensemble. Les abeilles sont des animaux purs. Ainsi, on a vu que les croyants séparés du mal sont ensemble. Ensemble, ils poursuivent la justice de Dieu, l'amour, la paix, la foi, tout ça, avec ceux qui invoquent le nom de Dieu d'un cœur pur. Voilà, ces abeilles suggèrent donc cette pureté et aussi cette multitude, cette assemblée nous parle donc des croyants qui sont ainsi séparés du mal ensemble pour produire quoi? Le miel. Le miel nous parle du fruit du pays. Le pays promis, dans Deutéronome 8, nous voyons que un des fruits, c'était le miel. Et même avant que le peuple sorte de l'Égypte, Dieu mentionnait à Moïse qu'il avait préparé un pays ruisselant de lait et de miel. C'est le fruit typique du pays. Et j'aimerais suggérer ceci. Ce fruit appartient au pays l'autre côté de la mort. C'était l'autre côté du Jourdain. Mais maintenant, littéralement aussi, la mort du lion est devenue l'endroit où ces fruits du pays sont trouvés. Et peut-être on a une suggestion ici, une suggestion très pratique. Là où la mort intervient. Christ est mort. Là, il a vaincu l'ennemi. Il a mis de côté la puissance de Satan. Et c'est là, sur la base de la mort de Christ, que ce fruit est trouvé. Le mot déchiré, il a déchiré le lion comme un chevreau. Ce mot déchiré, on trouve aussi dans Lévitique 11, où il y a des prescriptions pour la nourriture pure. Et ainsi, par la mort de Christ, Dieu a introduit une base sur laquelle le peuple peut être pur et sur laquelle il peut y avoir du fruit. Vous vous rappelez de cette histoire-là dans Luc 24, après la résurrection du Seigneur Jésus? Il y avait un peu de miel, une gratte de miel pour manger. Le miel était là. Et ainsi, le fruit, le miel nous parle de ce qui est disponible sur la base de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Et deuxièmement, ça nous parle du ciel, le pays. Toutes les bénédictions célestes sont maintenant disponibles pour vous et moi. C'est ça qu'on voit dans Jean 20. Le Seigneur dit, va et parle à mes frères que je monte vers mon Dieu, mon Père et leur Père. Ainsi, toutes ces bénédictions de l'autre côté de la mort sont disponibles pour ceux qui sont dans l'assemblée, dans le pays. Mais sur une base, donc, de séparation. Séparés du mal. Ainsi, il y a du fruit pour Dieu. C'est peut-être une autre chose qu'on voit ici. La deuxième expérience, c'est quelque chose de merveilleux pour Samson. Vous voyez, dans Lévitique 2, il est dit que le Seigneur Jésus, ou le sacrifice, le gâteau qui était présenté là à Dieu, qui nous parle de la vie du Seigneur Jésus, là il n'y avait pas de miel. Par contre, sur la base de l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus, il y a beaucoup de miel, comme Luc 24 nous montre. Et ici, ça parle des relations maintenant entre le peuple de Dieu qui sont purs et qui produisent maintenant du fruit selon le cœur de Dieu. Et Samson a mangé de ça, verset 9, il alla mangeant en chemin. Quelle joie pour nous si nous pouvons nous identifier avec ce fruit, si nous avons à cœur les mêmes désirs que Dieu a pour jouir de son peuple sur cette base-là de la résurrection. C'est de la bonne nourriture. Hein? C'est quelque chose que Dieu peut vraiment recommander à vous et moi, qu'on mange comme Samson de ce miel. Mais il ne leur raconta pas qu'il avait tiré le miel du corps du lion. C'est de nouveau un secret. C'est quelque chose entre le Nazaréen et Dieu. Pour jouir ainsi de la communion du peuple de Dieu, pour aimer les frères ainsi, c'est vraiment un secret personnel. Est-ce qu'on aime les frères comme ça? Est-ce qu'on aime cette communion avec le peuple de Dieu? Là, il y aura du fruit pour Dieu. Maintenant, brièvement, le restant du chapitre, on voit donc un déclin, verset 10, grandissant. Samson fit là un festin. Les associations mauvaises, ça donne encore plus de problèmes. Au lieu d'avoir une femme qui a le plaisir pour son cœur, elle a pleuré tout le temps. Beaucoup de problèmes. C'est toujours le cas s'il y a de mauvaises associations. Au lieu d'avoir de la joie, comme dans le verset 9, on va avoir beaucoup de problèmes. Verset 12. Et Samson leur dit. Ok, je vais juste répéter maintenant. Les parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Verset 4. Les parents ne savaient pas qu'il a frappé le lion. Les parents ne savaient pas que le lion est devenu une place pure pour les abeilles, pour avoir ce miel. Et maintenant, le 4 secret, ces choses-là étaient maintenant présentées comme une énigme. Vous voyez, le monde ne peut jamais comprendre ces secrets. C'est impossible. Mais ici, la déviation de la part de Samson, il présente maintenant ces choses comme une énigme au monde. C'est pas correct. Les choses qui sont un mystère entre Dieu et nous, un secret entre Dieu et nous, on ne va pas les exposer au monde. C'est comme le Seigneur dit plus tard, c'est comme si on jette des perles devant les pourceaux. Donc il leur donne 7 jours, parle de ses chemises et de vêtements de rechange, on va revenir à ça à la fin du chapitre. Mais il ne pouvait pas expliquer l'énigme. Mais lisons l'énigme maintenant, verset 14. De celui qui mange est sorti le manger, ou la nourriture, et du fort est sorti la douceur. Donc ce sont des contradictions. Comment le mangeur, celui qui mange, peut produire du manger? C'est une contradiction. Et moi j'aime beaucoup ce verset-là, parce que ça nous parle vraiment de ce que Dieu fait. Il permet au mangeur, il permet à Satan de nous attaquer comme ce lion rugissant. Et c'est par à travers tout cela qu'il va produire quelque chose. Dieu permet des difficultés dans nos vies. Il va produire certaines choses pour lui-même. Et nous voyons ce principe tout à travers la parole de Dieu. Dans Actes 2, nous voyons que Pierre dit, vous êtes des meurtriers du Messie. C'est grave ça. Et en même temps, les plans de Dieu étaient accomplis. Je ne veux pas justifier le mal. Faut pas me mal comprendre. Ce que je veux montrer, c'est que Dieu se sert même de l'ennemi pour produire du bien. Ça ne veut pas dire que Dieu accepte les déviations, que les déviations dans la vie de Samson étaient selon les pensées de Dieu. Non, ce que je dis, que Dieu est en contrôle, qu'il agit même si nous dévions, même s'il y a des manques, même s'il y a des attaques de l'ennemi, Dieu est souverain et il agit, il produit quelque chose. Souvent, on ne le voit pas tout de suite, mais à la fin, on le voit. Et du fort est sortie la douceur. Donc, c'est une autre description de cette nourriture, ce miel qui est tellement doux, tellement agréable. Comment, qui pouvait comprendre que la mort de Christ à la croix, là, où toutes les multitudes de l'ennemi se sont mises ensemble contre Christ pour l'attaquer. Psaume 22 nous parle de ça. Qui pourrait supposer que là, Dieu allait préparer quelque chose de bon, une douceur incompréhensible, une nourriture merveilleuse? Qui pourrait comprendre ça? Et un autre point que j'aimerais mentionner, tout ce que nous avons dans la parole de Dieu, même la vie de Christ, on ne pourrait pas profiter de tout cela si ce n'était pas sur la base de la mort et de la résurrection. Si le Seigneur Jésus n'était pas mort, on ne pouvait pas nous approprier de ce trésor-là. On ne pourrait pas manger sa chair, comme il est dit dans Jean 6. On ne pourrait pas manger la manne, parce que c'est uniquement sur la base de sa mort que nous pouvons manger. Mais ce qu'on voit ici, que l'ennemi a attaqué, l'ennemi veut la mort, et Dieu introduit la vie. Dieu introduit Christ là où tout est sans espoir, où tout semble être écroulé, échoué. C'est là où Dieu intervient, comme nous voyons dans l'histoire de Samson plusieurs fois. Quel miracle, mais aussi quel secret qu'il aurait dû garder pour lui-même, parce que c'est pas pour le monde. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. On voit là l'attitude des Philippiens, des Philistins. Quelle attitude il avait même envers leur propre peuple. Verset 15, ils ont dit que la femme devrait expliquer l'énigme, de peur que nous ne te brûlions au feu, toi et la maison de ton père. Donc, ce sont les méthodes du monde. Le monde est dur, sans pitié, sans sympathie. Et puis là, on voit donc la troisième fois qu'il y a un secret, la quatrième fois, il y a un secret. Samson a exposé cette énigme aux amis, là, qui ne pouvaient pas le comprendre. Maintenant, c'est même à son épouse qu'il ne veut pas l'expliquer. Pourquoi? Il dit, je ne l'ai pas même expliqué à mon père et à ma mère. Pourquoi je pourrais l'expliquer à toi? Peut-être là aussi une leçon pratique. Dans la vie de couple, il y a des choses où les parents n'ont rien à faire. C'est entre eux. Puis on voit quand même un manque ici, je pense, que Samson place ses parents au-dessus de son épouse. C'est pas correct. Dans la parole de Dieu, on voit que la relation de l'épouse, entre l'époux et l'épouse, c'est plus importante que la relation entre les parents et les enfants mariés. Il faut que ça devienne, que ça reçoive la première place, que les parents n'interviennent pas là si les enfants sont mariés. Donc, peut-être là un malentendu aussi de la part de Samson, mais d'un autre côté, on peut le comprendre, parce qu'il méfie de son épouse. Mais ça cause aussi beaucoup de maux. Si on a manque de confiance, ça crée beaucoup de maux. Mais d'un autre côté, de sa part, elle n'a pas apprécié Samson parce qu'elle a donné cette énigme, la réponse, tout de suite aux Philistins. Donc, ça montrait que son épouse n'a pas respecté Samson non plus. C'est un autre manque. Donc, c'est comme un amas de manque de la part des parents, de la part de Samson, de la part de sa femme. Verset 17, elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours qu'ils eurent le festin. Il arriva le 7e jour qu'il la lui expliqua parce qu'elle le tourmentait. On va voir ça donc aussi dans les autres histoires, que graduellement, Samson révèle ces secrets-là. Il ne les laisse pas pour lui-même ou entre lui et Dieu. Puis, finalement, ce sera Delila et aussi le secret de sa mort, on va voir. Donc, un vrai Nazaréen ne devrait pas exposer ses secrets entre lui et Dieu. Voilà le triomphe des Philistins, verset 18. À la fin du verset 18, qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Et qu'y a-t-il de plus fort que le lion? Donc, il donne la réponse dans une question. Et puis, Samson répond là, aussi avec une rime là, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. » Dans l'hébreu, ça rime, c'est comme une rime. Donc, la génisse veut dire son épouse. Ils ont utilisé son épouse pour avoir cette énigme. Donc, l'influence des Philistins ici, mais Dieu se sert de ça pour inciter Samson pour attaquer les Philistins. Donc, de nouveau, on voit que c'est une occasion de la part de Dieu pour que Samson commence à attaquer les Philistins. Et verset 19, on le voit, « L'Esprit de l'Éternel le saisit. » C'est la deuxième fois où on lit cette expression. « Il descendit à Ascalon. » Ascalon veut dire « Je serai pesé » ou aussi « Le feu de l'infamie ». Les deux choses, les deux significations sont vraies. Ils étaient pesés, leur faim était là, mais aussi c'était une accumulation d'infamie. Et puis là, quelque chose sur ses vêtements de rechange. Selon les pensées de Dieu, ce que les Philistins auraient dû recevoir, c'est une vraie conversion, un vrai changement. Ici, c'est seulement un changement extérieur. Donc, les Philistins sont frappés là, et les autres Philistins, les amis, ont reçu ces vêtements. Mais ça n'a rien changé. Et c'est ça qu'on voit souvent aussi dans la profession. On a vu, les Philistins, ça nous parle de la profession. Il y a souvent des changements là, sans qu'il y ait des changements réels. On peut changer beaucoup de méthodes, on voit dans plusieurs églises des méthodes différentes, mais si l'esprit n'est pas là-dedans, si c'est seulement des méthodes de l'homme, ça ne change rien. On peut avoir beaucoup de vêtements de rechange dans ce sens-là, sans qu'il y ait vraiment un changement devant Dieu. Et sa colère s'embrasa, il monta à la maison. C'est un homme déçu. Vous voyez, si on est sur la ligne de ce qui est naturel, en mettant de côté la puissance de Dieu, les pensées de Dieu, on sera déçu. C'est la leçon de ce chapitre. Il n'a rien. Il n'a pas eu cette femme parce qu'il est dit, verset 20, « La femme de Samson fut donnée à son compagnon dont il avait fait son ami. » Donc, il n'a rien. Mais on voit qu'il y a beaucoup de leçons dans ce chapitre-là pour nous. Et peut-être vous avez encore des questions sur ce chapitre. Puis la prochaine fois, Dieu voulant, on peut voir comment l'histoire continue avec bien des leçons pour vous et moi dans tout cela. Donc le Seigneur nous aide à discerner, d'abord avoir cet exercice d'être un Nazaréen, d'être séparé pour Dieu, mais là aussi de discerner s'il y a un mélange. On aimerait être sur la ligne de Dieu, tandis que souvent, on est sur deux lignes à la fois. Puis là, Dieu intervient pour nous séparer de ce qui est de la chair. Mais peut-être il y a des questions encore. Puis ainsi, dans le mouvement de Philadelphie, on voit aussi beaucoup de faiblesses. Les méthodes qu'on a utilisées, mais Dieu était là en même temps. Puis c'est une consolation pour nous aussi dans nos propres vies de réaliser ça. Qu'on manque à plusieurs égards, mais je pense que Dieu se sert de ces chapitres-là pour nous sensibiliser pour ces dangers-là. Parce qu'on a toutes ces leçons-là, même dans les autres juges, pour nous instruire, afin que nous ne tombions pas dans ces pièges-là. Et malgré tout ça, on tombe dans ces pièges-là quand même. Mais c'est quand même le fait que Dieu veut nous enseigner, il veut que nous soyons vraiment sur la ligne de Dieu. Sans devenir fier ou orgueilleux, parce que ça c'est l'autre danger qu'on voit aussi dans Philadelphie, qu'il y en a eu qui sont devenus fiers et orgueilleux, parce qu'ils étaient sur le sentier de Dieu, mais ils sont devenus des Philistins à un moment donné, parce qu'ils se sont confiés, ils ont mis de la confiance dans leurs propres efforts, dans ce chemin que Dieu leur a donné. Même là, les Philistins peuvent entrer. Mais je pense qu'on a beaucoup de profit si on voit le contexte, l'ensemble, avec 2 Timothée, qui donne des instructions pour le temps où nous vivons, et aussi avec Apocalypse 2 et 3, la Philadelphie, la place que Philadelphie a. On a beaucoup de profit si on voit ces grandes lignes.